Est-ce que on se donne tous l'opportunité d'intégrer dans nos équipes des personnes différentes ?
Transphobie ? J'ai posé ces mots-là.
Finalement, je les dérange, ces gens.
Je suis homosexuel. Au départ, je ne l'avais pas choisi. Personne n'a eu un rôle adapté dans cette situation.
Il faut qu'on arrive à construire des entreprises aujourd'hui qui sont à l'image de notre société aussi.
Les voies de l'inclusion et de la diversité. Masterclass d'Anthony Babkin, troisième partie.
Nous nous retrouvons, Anthony, pour cette troisième et dernière partie. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur la place que doit occuper cette question de la diversité et de l'inclusion dans l'entreprise. Alors, est-ce que c'est un enjeu de bien-être au travail, un enjeu de performance, de dignité, de raison d'être ? Comment tu vois les choses ?
Déjà, j'ai envie de la placer tout là-haut. C'est un mix de tout ça. Mais en fait, si le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise n'est pas convaincu que c'est un sujet stratégique, un sujet central, généralement, c'est pas très coercitif derrière. Il y a quelques initiatives qui peuvent se mener avec des collaborateurs qui ont envie ou collaboratrices, mais je suis absolument convaincu que ça doit déjà venir de la tête de l'entreprise. Ensuite, j'ai envie de dire, faut le prendre de tous les côtés. Et quand je dis ça, c'est que pour moi, c'est un sujet qui doit venir d'en haut en termes de prise de décision, parce qu'en fait, une entreprise qui va être diverse à sa tête va assez naturellement faire des choix qui vont être, en termes de recrutement, d'inclusion, assez naturels. Je ne dis pas qu'elles vont le faire sans le savoir. Il faut toujours une stratégie derrière tout ça. Mais en fait, parce que l'équipe est diverse, elle va être sensible à recruter des personnes qui lui ressemblent. C'est humain. On recrute des gens souvent qui nous ressemblent, et si, que ce soit en termes de valeur, en termes de parcours, en termes de profil, en termes d'école, voilà. Donc on peut avoir tous des biais très forts, et c'est vrai que l'avantage d'avoir une équipe diversifiée, c'est que ça peut quand même avoir un impact sur le reste. De l'autre, quand je dis de tous les côtés, c'est que je considère que le middle management a aussi un rôle très important, parce qu'à un moment, un manager à la tête d'une business unit, d'une équipe, va vouloir proactivement porter un sujet, considère qu'elle a un enjeu, elle veut recruter des talents qui ne viennent pas toujours des mêmes écoles, des mêmes sentiers. Et tout en bas, parce que je considère qu'il faut aussi que l'entreprise aille recruter dans des bassins divers. Ça peut être dans un quartier, ça peut être dans une zone rurale, ça peut être dans un, auprès d'un bassin de travailleurs en situation de handicap, reconnu RQTH, donc la reconnaissance de travailleurs handicapés. Bref, tout ça, c'est super important. Quand ça fonctionne, c'est parce que je vois que déjà, la consigne vient de tout là-haut, et aussi qu'à chaque échelle de l'entreprise, on a mis des acteurs qui ont envie de jouer leur part et qui considèrent que c'est toute l'entreprise et pas seulement...
Donc la diversité, c'est pas un sujet RH.
C'est un sujet RH, mais pas que. Et quand il est enfermé chez les RH, malheureusement, ça fonctionne pas toujours. Parce que c'est un sujet de culture d'entreprise avant tout. Une culture inclusive, c'est une exigence du dirigeant ou de la dirigeante. Toujours en ayant cette envie de dire « je veux que chaque personne dans l'entreprise trouve sa place ». Peu importe, je sais pas, son niveau de diplôme, peu importe son âge, etc. Et donc ça, c'est le plus difficile à faire, je pense. Mais ça suppose une vraie politique derrière. Et qui dit vraie politique, dit des indicateurs. Il faut qu'on mesure de quoi on parle.
Et justement, est-ce que c'est pas un frein ou une fausse barbe hein, pour des RH, je dis oui, mais on va lancer tout un programme, mais comment je vais le mesurer quoi ? Comment je vais voir qu'il y a une progression ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour suivre ?
Il y a plein d'indicateurs. On a, malheureusement, j'entends trop souvent, mais c'est compliqué de mesurer en France. C'est, les personnes qui disent ça, à vrai dire, n'ont jamais exploré le sujet, puisqu'il y a pléthore de data qu'on peut aller explorer, qu'elles soient anonymisées d'ailleurs ou qu'elles soient rendues publiques. L'âge en entreprise, on sait le faire. Le genre aussi, l'origine géographique, on le sait, le niveau de diplôme.
Ouais.
La question du handicap, il y a le déclaratif, il y a des gens qui ne se déclarent pas. Rappelons que 80% des handicaps sont invisibles. Donc il y a plein de gens qui sont en situation de handicap, mais qui n'osent parfois pas le dire, qui ne le sont peut-être pas dit à eux-mêmes. On peut ne pas être diagnostiqué. Tu peux avoir un trouble de l'hyperactivité, ne pas le savoir, et pour autant avoir... eu parfois certaines difficultés ou rencontré certains moments difficiles en entreprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il existe plein de données. Maintenant, charge à l'entreprise de s'en saisir. Il existe aussi des outils. Hein. Je pense à Mixity, par exemple, qui est une plateforme de collecte de données et qui va te permettre d'avoir une espèce d'empreinte, ce qu'ils appellent une empreinte de diversité de l'entreprise. Ça te donne la courbe des âges. Il y a 5 critères qui sont explorés. La diversité sociale, la question de l'âge, la question du genre, la question du handicap, la question de l'orientation. Et en fait, ça va permettre de voir aussi à quoi ressemble l'entreprise, est-ce qu'elle est diverse, et surtout, est-ce que proactivement, l'entreprise a mené des chantiers Donc ça aiguille aussi, ça permet de dire, tiens, est-ce qu'on a fait notre index égalité femmes-hommes ? Tiens, est-ce qu'on respecte notre quota de personnes en situation de handicap ? Tiens, c'est quoi la courbe d'âge dans l'entreprise ? Donc c'est tous ces sujets-là à laquelle l'entreprise est confrontée. Et souvent, on me dit, c'est quand même compliqué, c'est quand même difficile. C'est vrai, c'est pas un sujet simple. En revanche, l'entreprise inclusive a plein de ressources.
Qu'est-ce qu'elle y gagne, l'entreprise ? Parce que déjà, si on intègre un peu tout le monde pareil, bon, c'est bien, puisqu'on a intégré tout le monde de la même manière. Mais c'est quoi le gain pour une entreprise de travailler spécifiquement l'inclusion ?
Le rapport des Américains ou des Anglo-Saxons sur le sujet, il est beaucoup plus rationnel, parce qu'ils ont de la donnée. Alors après, pro ou contre quota, ce sera pas le sujet du podcast. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça permet de tangibiliser. Ils ont mis de la data et ils se sont aperçus que les boîtes diversifiées étaient plus performantes. Et on parle pas de quelques points, on parle de dizaines de points. C'est McKinsey qui mesure depuis une dizaine d'années cela avec son indicateur diversité et inclusion. Je t'invite les gens d'ailleurs à le consulter. Et c'est vrai que j'aime bien ramener ça à un sujet très pragmatique de des boîtes plus diverses sont plus performantes.
Sur quoi va porter ça ? Sur la performance ? Sur la discussion ? Sur le dialogue ?
J'ai plein d'exemples très concrets.
Ouais.
Le premier, assez aisément déjà, si ton entreprise s'internationalise, on comprend qu'avoir des polyglottes, des personnes qui vont parler différents dialectes, langages, que ce soit d'ailleurs pour aller explorer le marché africain, le marché d'Amérique du Sud, peu importe. Donc, si tu as des enfants d'immigrés première, deuxième génération dans ton entreprise, il y a de fortes chances qu'ils parlent l'hindi, l'arabe, j'en sais rien, enfin, peu importe. Ouais. Ça, c'est une richesse. Alors que parfois, des enfants de première, deuxième génération d'immigrés ont masqué cette deuxième langue en considérant que c'était un bagage un peu à ne pas mettre sur le CV. Tiens, je parle l'arabe, mais est-ce qu'il faut que je le notifie ? À tel point qu'en fait, le niveau de discrimination important, il faut rappeler ce critère-là, aujourd'hui, un nom à consonance étrangère, en particulier maghrébine, a 30% de chances en moins d'accéder à un entretien de recrutement en France. Donc, à quoi bon marquer le fait que tu parlerais une deuxième langue, dont l'arabe, par exemple ? Donc, c'est parce qu'on sait que ça peut être un critère de discrimination. Deuxième exemple, parlons d'accessibilité. Aujourd'hui, tu as à peu près 10% des sites du service public qui sont accessibles. Ça veut dire une personne malvoyante, une personne qui soit 10, donc dyslexique, dystrophie, enfin voilà, aurait du mal finalement à consulter un site qui n'est pas développé ou adapté. Imagine dès demain, dans une équipe comme celle-là, tu mets plusieurs personnes qui seraient neuroatypiques ou tout simplement sensibles à ces enjeux de handicap parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes ou parce que tout simplement ils sont en situation de handicap. Le fait d'adapter le site de l'entreprise ou lors de sa conception va se faire assez naturellement. Donc, je dis souvent, le handicap est une richesse pour l'entreprise parce que par définition, l'entreprise, lorsqu'elle va s'agrandir, qu'elle va se développer, elle aura dans ses effectifs des composantes qui vont l'aider à réfléchir à cela. Et je peux prendre le sujet sur plein d'autres thématiques. Et on pourrait parler de l'âge. Je parlais, par exemple, de l'âge dans les startups. Les startups sont très figées aujourd'hui. Sur l'âge moyen, c'est autour d'une trentaine d'années. Je dis souvent que c'est bien d'avoir quelques seniors pour ceux qui ont essuyé des tempêtes, des coms de crise ou autres crises financières dans le monde du corporate.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un biais, je suis un manager, mettons que je suis un dirigeant d'entreprise, entre la frontière entre le perso et le pro ? Est-ce qu'il n'y a pas une résistance de l'entreprise pour adresser quelques sujets parce qu'on dépasse le cadre professionnel ?
Déjà, je ne crois pas en cette frontière entre le pro et le perso. En tout cas, elle est de moins en moins vraie. Et un collègue de boulot avec qui tu vas passer 3, 5, 10 ans, à mon avis, va en savoir peut-être plus sur ta vie que parfois tes bons amis ou ton voisin. Donc, et puis on se raconte, je pense, à la machine à café, beaucoup de choses sur sa vie personnelle, ses vacances, etc. Et si je prends l'exemple d'une femme lesbienne, elle va se marier. Qu'est-ce qu'elle va dire si elle se rend compte qu'elle n'est pas dans une entreprise inclusive ? Elle est obligée de mentir ? Elle est obligée de dire, tiens, mon mariage avec mon copain ? Elle est obligée de mentir sur sa procédure d'adoption ou de GPA ?
On vient de voir la vision d'entreprise. À quel niveau il faut les mettre ? Finalement, le sujet de la diversité. C'est quoi le champ des possibles pour bouger les choses dans l'entreprise ?
Il est énorme, j'ai même envie de dire il est infini. On voit beaucoup de boîtes qui aujourd'hui, sur les politiques sociales, les politiques d'inclusion, innovent. Elles décident à un moment de se dire « Ok, j'ai un fonds de dotation, je vais le grossir et je veux aider des projets à impact dans mon territoire. Je veux aider tel assaut d'égalité des chances qui est dans la ville d'à côté ou dans notre ville. Et j'ai envie d'embaucher des jeunes de cette structure. J'ai envie de travailler avec telle structure d'insertion. » Je crois que l'entreprise du 21e siècle, elle doit être profondément inclusive. Sinon, elle n'est pas. C'est mon cheval de bataille, je me bats pour ça, je me lève chaque matin pour, et je considère qu'une entreprise qui réussit, c'est une entreprise inclusive. Ou en tout cas, qui se donne toutes les possibilités. Il y a plein de choses, quand je dis plein de choses, c'est former les collaborateurs, qui est quand même le B.A.B.A., on n'en parle pas suffisamment, mais parfois je fais un petit exercice dans le monde de la tech, à main levée, sur le nombre de personnes qui ont été sensibilisées aux discriminations d'entreprise, je vois une main levée sur 100. C'est quand même terrible, ça veut dire que finalement, on a 99% des gens de cette même entreprise qui vont être potentiellement auteurs de discrimination, parfois sans s'en rendre compte. On parlait des micro-agressions, etc. Si on n'a pas été sensibilisé au sujet, ça s'appelle de la maladresse. Je ne les défends pas. On appellera ça une micro-agression, on appellera ça parfois du racisme, du sexisme, de l'homophobie, peu importe. Mais si on n'a jamais été sensibilisé, conscientisé sur ces sujets-là, de dire « Ok, sur ça, attention, ça ne se dit pas, ça ne se dit plus, ou tu ne peux plus dire ça, ou tu ne peux pas dire ça, ou tu ne peux pas faire ça. » Il y a un enjeu très important à la tête de l'entreprise, de former les top managers à ce qu'est le recrutement inclusif. Les biais sont très très forts dans le cadre du recrutement. On peut très vite avoir tendance à recruter des gens qui nous ressemblent plutôt que de recruter sur la base de compétences ou d'appétence pour un poste.
Pour clore cette séquence sur les rôles, j'ai envie de te poser une question qui est de l'ordre de la reprogrammation. Comment on se reprogramme par rapport à son propre contexte, par rapport à ce qu'on a vécu, et sa prise de conscience, qui est de dire « Ok, là, je suis plus juste, mais il faut que je change. Mais comment on fait ?»
Alors, c'est amusant que tu poses la question, parce que les moins sympas, ils disent « Il y a Internet, quoi.
» Va voir.
Va voir YouTube. Ouais. Il y a plein de documentations, de podcasts, de livres. Ouais. Et donc, il suffit de taper... finalement, Google est ton meilleur ami dans ce genre de cas. Et si je prends l'exemple du fait cultuel en entreprise, donc ouais. La religion... Beaucoup de gens, lorsqu'ils vivent, par exemple, on est en plein mois du Ramadan, il y a plein de questions naïves qui émergent généralement à ce moment-là, en disant « Mais dis donc, t'as pas soif, t'as pas faim, oh là là, mais ça doit être compliqué. » Et c'est souvent, en fait, des remarques que les croyants et ceux qui pratiquent le Ramadan trouvent déplacées, malvenues. Il y a même des guides maintenant qui existent sur comment soutenir un collègue qui fait un jeûne. C'est très documenté, encore plus côté anglo-saxon. Donc c'est intéressant toujours de voir qu'ils sont quand même plus au fait. Parce qu'après qu'on considère que le cultuel ait sa place ou non en entreprise, la réalité c'est qu'une personne qui fait le ramadan et qu'elle sera peut-être plus fatiguée en fin de journée et plein de choses. Donc mieux vaut que l'entreprise s'adapte et puis qu'elle en prenne conscience plutôt qu'elle le mette sous le tapis et qu'elle le considère pas et qu'elle soit maladroite avec ce collaborateur et qu'il ait envie d'aller bosser ailleurs. Enfin, si je suis trivial, voilà. En revanche, c'est vrai que, comme toujours, c'est est-ce que j'ai envie de comprendre ? Est-ce que j'ai envie de me renseigner ? Est-ce que j'ai envie de faire en sorte que mon collaborateur, ma collaboratrice se sente bien dans l'entreprise et qu'elle n'ait pas le sentiment d'avoir des questions connes, pardon pour le mot, sur ses orientations ou voilà. Et généralement, quand une femme, par exemple, parle de sa sexualité, il y a eu un joli reportage sur Arte aussi sur le sujet, sur les femmes lesbiennes. Et très souvent, certaines disent que dès lors où elles ont commencé à parler du fait qu'elles étaient lesbiennes, elles ont eu ce rapport... aux caricatures. D'un coup, on m'a mis dans une position où j'étais la camionneuse ou quelque chose de très sexualisé, le rapport avec deux femmes. Bref, et donc, on voit que il y a beaucoup de fantasmes, il y a aussi beaucoup de mythes, beaucoup de maladresses parce que les gens ne se renseignent pas. Donc, je pense que chaque personne, déjà, a le pouvoir de se renseigner soi-même.
Ouais, soyez curieux.
Quoi. Soyez curieux. Je trouve que c'est une intention noble aussi de s'intéresser aux autres, de comprendre. Moi, je me dis... moi-même, je suis homosexuel, je me dis, si un jour on vient me poser des questions sur mon rapport à la parentalité, mon rapport à mon couple ou quoi que ce soit avec la personne, je la sens tout simplement, dire, écoute, je n'ai pas d'amis homosexuels, j'ai plein de questions à te poser, est-ce que ça te dérange que je te pose ces questions ou quoi que ce soit et qu'on se pose et que tu m'expliques, avec plaisir, qu'est-ce que tu as besoin de savoir, c'est quoi ton rapport à l'adoption, ce serait une conversation, si je sens que c'est pas mal intentionné et qu'on n'est pas dans quelque chose où on chercherait à avoir des infos sur ma vie privée ou quoi que ce soit, mais juste de comprendre ce que c'est que l'amour entre deux hommes, ou voilà, je pense que c'est... Donc se reprogrammer pour moi, ça veut dire avoir conscience de son époque, je juste comprendre ce qui se passe, cette société avec des gens qui veulent juste être respectés, qu'on comprenne leur singularité, qu'ils aient leur espace dans l'entreprise. Je ne dis pas que l'entreprise doit être un espace de lutte interne, mais un espace de cohésion, un espace de « je te respecte, on travaille ensemble, tu auras de la dignité à mes côtés, je vais te respecter, je vais essayer de te comprendre ». Et c'est le début de la paix, hein. Un pas vers l'autre.
Est-ce que tu crois que dans les bénéfices d'une entreprise plus inclusive, qui a conscience de la diversité, est-ce que c'est forcer le trait que de dire une entreprise plus diverse, les gens s'expriment globalement beaucoup plus facilement, partagent beaucoup plus, facilitent de la coopération? Je tire le fil trop loin? Ou ça te paraît juste?
Ça me paraît juste. Pour moi, une entreprise inclusive, c'est une entreprise heureuse. Certains le voient comme un espèce de surcouche en disant « Ah ouais, on va encore nous imposer ci, ou encore nous... » Je l'entends, ce discours-là, mais je pense que c'est des gens qui n'ont pas conscience des vertus. On dit pas opposer les uns les autres, on dit construire avec les uns et les autres. Et c'est toute la différence, c'est pas construire contre, c'est construire avec. Et à partir du moment où on considère que ces singularités, ces différences sont une richesse pour l'entreprise, ça change le disque. Et la réalité aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de gens, c'est une contrainte. Mais tu parlais de reprogrammer. Pour ceux pour qui, à mon sens, c'est une contrainte, c'est ces gens qui n'arrivent pas à se reprogrammer, qui ne vivent plus avec leur époque. Alors je suis un peu dur, mais je me dis, il existe tellement de choses, tellement d'outils, tellement de boîtes qui accompagnent sur ces sujets, tellement d'opportunités d'en parler. Parce que ce sujet de l'inclusion, c'est notre société qui se réveille. Il y a eu le 8 mars un temps, et puis aujourd'hui il y a la Pride, et puis aujourd'hui il y a la SEPH, et puis il y a du Odé, et puis en fait il y a plein d'occasions de célébrer cette diversité, en faire une fête, se dire que la différence est une force.
Merci beaucoup, Anthony.
Merci à toi, et puis j'espère que ceux qui nous ont écoutés auront envie de passer à l'action, se lancer. C'est une superbe aventure, et je dis souvent le pas de côté. Le pas de côté, c'est l'envie à un moment en tant que acteur de l'entreprise, de mentorer quelqu'un, de filer un coup de main, être aidant, être plus proche de personnes qui ne nous ressemblent pas. On apprend toujours, on grandit. Donc, lancez-vous, force à vous.
Podcast Learning Academy. By Toutac.